Bonjour à tout le monde. Avant que j'oublie, avant toute chose, je vous transmets les salutations fraternelles de notre pasteur, qui aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Il y a échange de chair entre notre église et l'église des frères à Antony. Donc, cette semaine, c'est lui qui est à l'église des frères d'Antony. Et vous savez, le culte dure de 10h à 1h, d'après ce que j'ai compris. On peut lui souhaiter courage. Et la semaine prochaine, c'est un frère de l'église des frères qui sera parmi nous et qui apportera le message. Et... Pardon? Non. Je vais vous regarder et comme ça, vous me faites signe qu'il ne faut pas dépasser. Et avant que j'oublie aussi, il m'a chargé de vous transmettre qu'il sera en vacances, notre pasteur, à partir de mardi jusqu'à vendredi. Il n'a pas pu prendre, à cause des occasions qui sont produites dans l'église ces deux semaines dernières, mais il va essayer de prendre des vacances de mardi jusqu'à vendredi. Mais les activités de l'église continuent. C'est toujours un réconfort et un encouragement quand on entend les gens prier pour nous. Parce que, je pense que vous nous croyez, si je vous le dis, quand on se sent ici devant tout le monde et qu'on veut apporter la parole de Dieu, on sait bien que ce n'est pas par nos propres forces et on a besoin, vraiment en toute humilité, de la présence du Saint-Esprit, de la présence de Dieu parmi nous et pour nous aider à vous apporter la parole et pour vous à essayer de la saisir et de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et la méditation d'aujourd'hui, justement, c'est une prière de Moïse. Prière de Moïse. Comme beaucoup de psaumes, bien des fois, sont des prières. Et le psaume 90, il commence, il est intitulé par « Prière de Moïse ». Je vous propose de l'écouter ou de le lire avec moi. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un psaume de Moïse avec trois prières que je viens de vous laisser ici. Une qui s'adresse à Dieu pour lui demander de la sagesse dans sa vie, à bien compter ses jours, on y reviendra. La deuxième prière, il lui demande de venir au secours du peuple, afin qu'il ne soit plus humilié. Personnellement, je pense que dans l'esprit de Moïse, qui parle au nom du peuple, Moïse ne dit pas « je », il dit « nous ». Au nom du peuple, cette prière est faite, pas en son nom personnel. Que autant les années humiliées en Égypte, les 400-450 années passées, qu'ils soient oubliés et qu'ils en aient autant de vie de bonheur avec Dieu. Et la troisième prière, il demande au nom du peuple d'affermir l'ouvrage de leurs mains. Affermir l'ouvrage. Ce matin, on ne va pas traiter les trois prières de Moïse. On va juste voir les deux que j'ai mis en vert, la première et la troisième. Mais avant de commencer à les méditer et de comprendre pourquoi Moïse a fait cette prière au nom du peuple, pourquoi l'a-t-il fait? Que sous-entend-il derrière cette prière? Quel était son souhait pour lui et pour son peuple? Avant cela, on va revenir un petit peu aux deux premiers versets, deux, trois premiers versets de ce psaume. Moïse commence par avoir une constatation, des constatations et des contrastes entre Dieu et les hommes. Et il va les exposer. La première chose, il va se rappeler qui est Dieu. Et dans ces trois premiers versets, on comprend deux attributs de Dieu que Moïse rappelle au peuple. Dieu est éternel et Dieu est puissant. Bien sûr, ce ne sont pas les deux attributs uniques de Dieu. Le Décalogue en décrit bien plus, surtout la miséricorde, la bonté, l'amour de Dieu. Il en a plein d'attributs. Mais ici, Moïse s'intéresse à deux attributs spécifiques de Dieu, son éternité et sa puissance. Mais on peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi ? La première chose, l'éternité sans la puissance ne vaut pas grand-chose. L'éternité sans la puissance ne vaut pas grand-chose. Du temps des Grecs et de ce temps-là, on trouve sur un vase grec une peinture de Sisyphe qui était le fils du roi qui a fondé Thessalonie et que lui-même a fondé Corinthe, dans la mythologie, hein, Corinthe, ce Sisyphe qui était condamné par les dieux à une vie éternelle, mais dans sa vie, à cause de ce qu'il a fait, on ne va pas rentrer en détail du pourquoi, il avait à monter un rocher jusqu'au sommet de la montagne. C'était sa punition éternelle. Et une fois que le rocher arrive au sommet de la montagne, il dégringole jusqu'au bout, jusqu'au fond, et il fallait le remonter. On trouve ça sur beaucoup de vases qui nous est resté de ce temps-là des Grecs. L'éternité, vivre éternellement, sans la puissance de se sortir de ses problèmes, ne vaut pas grand-chose. Il était condamné à ceci. Il était impuissant, ce Sisyphe, de ne plus avoir cette punition, même s'il vit l'éternité. Mais une puissance sans l'éternité est aussi vaine. Salomon, dans son livre l'Ecclésiaste, l'a montré bien. Au début des premiers chapitres, il le souligne bien. Il parle de lui, il dit « J'étais le Tout-Puissant, plus puissant que n'importe qui avant moi sur la terre. » Et qu'est-ce que je vais devenir, il dit, « Je vais mourir, retourner à la poussière. » Et qui sait si le travail, la puissance que j'ai accumulée, toutes les richesses que j'ai accumulées et que je vais laisser à celui qui est après moi, s'il ne va pas les délapider et qu'il saura s'en servir bien. La puissance sans l'éternité est aussi vaine. Or, Moïse commence par constater « Dieu est puissant, Dieu est éternel. » Mais de ceci, il va passer à une autre constatation, un autre contraste, quand il va comparer à l'homme, à l'être humain qu'il est. Et là, il va se rendre compte que l'homme, et qu'il le rappelle au peuple, bien sûr, dans le psaume, l'homme n'est pas puissant ou éternel, l'homme n'est ni l'un ni l'autre. L'homme n'est pas éternel. Il n'est même pas maître du temps. L'homme n'a pas la possibilité de contrôler le temps. L'homme, s'il commet une bêtise, et on va le voir un tout petit peu plus loin, rentrer en détail, il est incapable de revenir en arrière pour corriger ceci. On y reviendra en détail. Et l'homme n'est pas puissant non plus pour contrôler sa vie comme il le souhaite et comme il le veut. Et on va le voir un petit peu. Et il va comparer dans les versets 3 jusqu'au verset 10. Il va comparer la vie de l'homme, les durées, les années de l'homme. Il va dire l'homme va vivre combien? 70, 80 ans? Même 1000 ans comparé à Dieu. Probablement, quand il a dit 1000 ans devant Dieu vivre, il pensait à Méthusalem, qui a vécu 969 ans, presque 1000. Moïse lui-même, il a vécu 120 ans. Aaron, je pense 113 ou 123. Marie a vécu 130. La sœur de Moïse, Josué 110. Et il est en train de dire, mais tout ceci, tout ce que l'on peut vivre devant Dieu, n'est qu'une veille de la nuit. En d'autres termes, une veille de la nuit pour un juif, si je ne me trompe pas, c'est 4 heures. Hein, c'est ça? C'est 4 heures. Et 4 heures de la nuit, pas 4 heures du jour, pendant la nuit on dort. Pendant la nuit, on dort. Même l'œuvre de l'homme devant Dieu n'est rien. C'est comme s'il dormait. Et après cette constatation, il va venir à sa première prière devant Dieu. Une fois qu'il a constaté ceci, ce qui est l'homme, le contraste entre l'homme et Dieu, il va dire, il va prier, enseigne-nous, il parle en nous, hein, à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. J'aurais aimé faire une petite remarque. Moïse ne commence pas ses prières par celle qui, la deuxième, où il demande à Dieu de venir à leur secours, de leur donner le bonheur, de ne plus être humiliés comme ils étaient en Égypte, de les sauver de l'esclavage et ainsi de suite. Il commence sa prière par une chose qu'il juge beaucoup plus importante. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À ceci, il y a trois réflexions que j'aimerais vous les soumettre. Mais avant, j'aurais aimé faire une petite parenthèse pour pourquoi c'est très utile, enseigne-nous à compter nos jours. Je ne sais pas si d'entre vous, ceux qui ont mon âge, probablement les jeunes, je ne pense pas, entre mon âge et les jeunes, peut-être. Vous vous rappelez du film Star Trek ? Ah oui, c'est important. Où il y avait le capitaine Jim Kirk avec son entreprise revenant sur la Terre. Il y avait une force qui allait attaquer la Terre et quand on n'arrivait pas à savoir ni le pourquoi ni qui elle est. Or, ils ont découvert, c'est fiction, hein, ne me demandez pas comment, que cette force, ces gens, ces puissants qu'on ne voit jamais dans le film, c'est eux qui ont introduit les orques dans la Terre. Et que de temps en temps, ils vous mettent écouter le signal, le son émis, le chant des orques. Or, ils ne les entendaient plus. Donc, ils ont supposé que les humains les ont tués et ils vont venir pour détruire la Terre. On n'entendait plus, à cause des conditions climatiques, je ne sais pas, les orques ou de l'homme, les orques ne sont plus. Alors le capitaine Jim Kirk a dû remonter le temps, revenir en arrière, pour reprendre de la terre un orque et le ramener à l'époque où il vivait, pour qu'il chante de nouveau dans la mer, et qu'ils, les autres, entendent le chant, et puis ils arrêtent. La possibilité de remonter le temps, de corriger une erreur. David n'a pas eu la possibilité de le faire. Si vous regardez les psaumes de David, le psaume 32, le psaume 38, le psaume 51, le son cœur qui crie « Oh Dieu, aie pitié de moi !» Dans tous ses psaumes, il ne fait que regretter le meurtre qu'il a commis avec Uri, l'adultère qu'il a fait. Ça sort de tout son cœur dans ses psaumes, ce regret. David ne pouvait pas remonter le temps. Il n'était pas assez puissant pour remonter et pour corriger ce qu'il a commis. Et là, je reviens à des versets bibliques. L'Ecclésiaste lui-même, Salomon, le fils de David, il dit la même chose. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement, ainsi de suite. Et à la fin, là où j'ai mis en jaune, avant que, il dit, souviens-toi de ton Créateur, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu. Un moment où on n'en peut plus. Et c'est fini. Hébreux le dit, l'Épître aux Hébreux le dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et on le voit dans les paraboles du riche, dans les paroles du riche et du Lazare, qui n'a pas fait l'aumône à Lazare quand il en avait besoin et que quand les deux sont morts, l'un est parti, Lazare, dans le sein d'Abraham et le riche en enfer, dans les tourmentes. Il criait, il voulait revenir pour corriger, mais c'était trop tard. Il voulait même envoyer quelqu'un pour aller voir ses frères, ses cinq frères, pour qu'ils ne commettent pas pareil que lui. C'était trop tard. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Bien compter nos jours avant que ça soit trop tard. Avant qu'on commette des actes où on ne peut plus. L'homme n'est pas puissant. L'homme n'est pas éternel. L'homme ne peut pas revenir pour corriger ce qu'il a fait. Et là, je vous propose la première réflexion. Disons la première leçon. Réfléchissons. Réfléchissons à notre vie. Et c'est ça qu'il veut nous dire, Moïse. Combien de temps va-t-on vivre? 70? 80? Aujourd'hui, avec l'espérance de vie, on peut aller jusqu'à 90, 99, même peut-être 100. Il y en a même qui vivent après 100 ans. Mais un jour ou l'autre, ça va être avant que ça soit trop tard. Mais ceci ne s'applique pas uniquement, je dirais, à la conversion ou à être en règle avec Dieu. Ceci s'applique aussi à nous chrétiens. À nous chrétiens qui, un jour ou l'autre, et c'est ce qu'il dit l'Ecclésiaste, on va vieillir, on va regretter de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire pendant notre vie de chrétien. Et on va devenir vieux, et on ne pourra pas venir corriger. Et on va dire, ah si j'étais plus jeune, ah si j'avais la force, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est ce qu'il disait Lazare. Le riche, ah si je pouvais revenir en arrière, ah si je pouvais. Et l'Ecclésiaste dit, un jour où on ne pourra plus rien faire parce qu'on a vieilli. On n'a pas besoin d'attendre longtemps. Je dis toujours que tous les versets bibliques que je connais, c'est ceux que j'ai mémorisés quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis incapable de mémoriser comme avant. Lorsque j'étais jeune, je ne venais même pas avec des choses écrites. J'avais la capacité de mémoriser et de parler. Maintenant, je mets même des choses jaunes pour ne pas oublier. Mais c'est normal. Et plus on vieillit, moins on est capable. Et c'est ce que veut dire Moïse et l'Ecclésiaste. Enseigne-nous à compter nos jours avant que. Ce n'est pas uniquement pour mettre sa vie en règle devant Dieu. C'est aussi notre vie de chrétien avec Dieu. Faites les choses que Dieu nous demande tant qu'on a encore la force, le courage, la possibilité de le faire avant qu'on vieillisse et qu'on soit incapable et qu'on regrette. Mais on n'est pas puissant. On ne pourra pas remonter le temps pour corriger ce qu'on n'a pas fait. Et la deuxième réflexion, la sagesse. La sagesse qui est demandée ici n'est pas uniquement la manière d'agir, de se comporter, mais de ne pas faire des bêtises, ne pas blesser quelqu'un par la parole. La Bible n'arrête pas de nous parler de ceci. Moïse a fait cette prière. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse a fait cette prière à Dieu. L'Ecclésiaste a voulu lui-même faire l'expérience et se rendre compte que quand même tout est vanité et vanité, tout ce qu'il cherchait. Mais revenons à la Bible. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul à Timothée et à nous aujourd'hui. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Hein? Vous rappelez la prière de Moïse. Hein? Pour être sage, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Si vous avez d'autres traductions de la Bible, ils ne diront pas accompli, je pense qu'ils diront parfait, et d'autres disent entièrement équipé. C'est exactement ça, ce que veut dire ce verset. La parole de Dieu, la sagesse, rendre sage à salut pour être entièrement équipé. Et j'aime bien vous choquer de temps en temps. Et là, ce que je vais vous dire, rien que pour vous choquer, pour que vous réfléchissiez, ce n'est pas la peine de faire la prière de Moïse à Dieu. Sauf si vous voulez avoir bonne conscience devant Dieu. De prier pour que Dieu nous donne la sagesse d'agir. Vous pouvez le faire, ça ne fait qu'avoir bonne conscience devant Dieu. J'exagère, je veux juste vous titiller. Pourquoi ? Parce que Dieu nous l'a donné. Dieu nous a donné sa parole. Et c'est ce qu'il est en train de dire, Paul à Timothée. Si vous voulez connaître la sagesse de Dieu, pour être sage à salut, être entièrement équipé, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour ceci. Donc au lieu de prier notre Dieu pour qu'il nous donne la sagesse d'accomplir quelque chose ou de comprendre ce qu'il nous demande, prions-le peut-être de nous donner la force, le courage, la persévérance de lire la parole, de l'étudier, de la mémoriser, de l'appliquer. Mais ce n'est pas la peine de prier uniquement pour avoir la sagesse. Dieu nous l'a donnée. Prions Dieu de l'étudier, de la mémoriser, de l'appliquer, de persévérer, non seulement à la lecture, mais aussi à son application. Dieu a déjà répondu à Moïse, à la prière de Moïse. On a le Christ, on a les proverbes, on a Job, on a les psaumes, on a tout le Nouveau Testament, on a les lettres de Paul, on a tout. Dieu nous l'a donné. Prions pour qu'on l'étudie et qu'on l'applique, cette sagesse que Dieu nous a donnée, et qu'on soit entièrement comme ça, équipé pour compter nos jours et pour appliquer notre cœur à la sagesse. Dieu nous a enseigné à nous de saisir et d'appliquer cet enseignement. Continuons notre réflexion, si comme notre sœur a dit, il ne faut pas rester jusqu'à une heure. Deuxième prière. La deuxième prière qui est la troisième, d'accord ? On ne va pas faire la deuxième. La deuxième prière, il dit « Affermis l'ouvrage de nos mains ». Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il sous-entend ? Que veut-il dire, Moïse, par ce terme « Affermis l'ouvrage de nos mains » ? Je pense qu'il est utile de bien comprendre si on ne veut pas faire une application erronée de ce verset. Puisque l'homme n'est ni puissant, ni éternel, Moïse va prier Dieu pour affermir son ouvrage. Mais avant de rentrer dans les détails et de comprendre, il est utile de se poser quelques questions, au moins une très importante. Pour qui est faite cette prière? Si on regarde les versets d'avant, du verset 3 au verset 10, Moïse parle plusieurs fois des serviteurs de Dieu. Donc, a priori, puisqu'on lit la prière de Moïse après ce qu'il dit au verset 3, au verset 10, qu'il parle des serviteurs, on a l'impression, ou on peut penser, que Moïse parle des serviteurs de Dieu, comme lui, comme les chefs de 10, des 100, des 1000 qu'il a mis pour l'aider. Dans le jugement, dans la gestion du peuple. Par extension, on peut penser qu'il parle aux pasteurs, aux missionnaires, je dis par extension, actuellement. Et à ce moment-là, on peut se sentir non concerné. Mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que si la Bible parle de serviteurs, et quand on lit le mot serviteur, on ne se sent plus concerné, nous, assis sur les bancs aujourd'hui, comme ça. Ce n'est pas si vrai que ça. Parce que dans la Bible, ce n'est pas le mot serviteur qui est marqué. Ce qui est marqué dans la version normale, originale, hébreu, ou d'autres versions, quand je le lis parfois en arabe, ce n'est pas le mot serviteur, c'est le mot esclave. C'est le mot esclave. Deuxième chose, quand je lis, première chose, j'ai pas fini. Quand on lit le mot esclave, on se sent, je vous assure, hein, je l'ai relu moi en arabe pour essayer de voir, on se sent concerné. Parce que on entend parler de l'esclavage du péché, qu'on est devenu esclave de Dieu. On n'est plus esclave de Dieu. On se sent concerné, nous aussi, et pas uniquement certaines personnes. Il est vrai que les Bibles mettent serviteur, parce que c'est ce qui est sous-entendu. Un esclave, c'est au service de quelqu'un. Mais un serviteur, s'il n'est pas content, il peut changer de maître. Il peut aller ailleurs. Un esclave n'a pas le choix. Il est au service de son maître et il ne peut pas changer. Il n'a pas le choix. En plus, comme je vous ai dit au début de la méditation, Moïse, il dit « nous » dès le début. Quand il dit « viens à notre secours, tu as été pour nous un refuge », il dit plusieurs fois le mot « nous », il ne pense pas qu'aux serviteurs de Dieu, il pense à tout le peuple. Donc, quand il arrive à la prière et il dit « enseigne-nous à bien compter notre jour », il pense à tout le peuple, puisqu'il parle au nom du peuple. Et quand il vient et qu'il dit « affermis l'ouvrage de nos mains », c'est toujours dans la même pensée. Il est en train de penser à tout le peuple. Donc, ce n'est pas uniquement les pasteurs ou les missionnaires. Je retransmets à aujourd'hui, hein. Actuellement, j'actualise, qui sont concernés par cette troisième prière, la deuxième cantate, mais nous tous qui sommes concernés. On est concernés. Continuons la réflexion. Que veut dire maintenant affermir? Que veut dire affermir? Pour bien le comprendre, je pense que ça veut dire que l'œuvre, qu'elle ne soit pas vaine, ou qu'elle brûle comme la paille. Et ça, l'apôtre Paul était très conscient de cela. Il y pensait tout le temps, l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'aux Corinthiens, quand il écrit chapitre 3, versets 9 à 15, il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu », ainsi de suite. Et puis après, ici, « Si l'œuvre... bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Le souci de Moïse, le souci de l'apôtre Paul, que l'œuvre de chacun de nous, qu'on est en train d'accomplir devant Dieu, soit affermie, qu'elle ne va pas brûler à la fin, quand on a être devant Dieu, qu'elle soit affermie. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'elle soit solide, durable dans le temps, utile pour Dieu, pour l'avancement de son règne, et qu'elle ne brûle pas comme le feu. Et je pense... la personne qui m'a donné l'idée de faire ce message, c'est Nicolas, président du conseil. Et je pense, quand il m'a demandé de faire ceci, il pensait pour lui, pour nous, au conseil. Parce que je sais que c'est toujours son souci. Que ce qu'on est en train de faire, le travail qu'on est en train de faire, soit affermi devant Dieu. Et qu'il ne soit pas fait pour rien, ou pour le plaisir, ou juste pour dire on a accompli quelque chose. Que le travail qu'après ne soit pas brûlé, consumé. Alors quel est l'ouvrage de nos mains? Revenons terre à terre. Pour Moïse, on connaît. C'était conduire le peuple à travers le désert, le sortir d'Égypte à travers le désert, jusqu'au pays promis, sans y rentrer. Pour Josué, on le sait, la conquête de la terre promise. pour David, établir le royaume d'Israël, pour Salomon, l'affermir, pour Paul, l'œuvre missionnaire, amener la parole aux païens, à toute la terre. Mais on vient de voir que la parole de Moïse, cette prière, n'est pas uniquement pour des gens spécifiques, elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour nous. Alors, quelle est mon œuvre devant Dieu? On peut citer les enseignants, on peut citer les moniteurs, les monitrices, mais on peut citer n'importe quelle œuvre. On sait tous que Dieu a donné à chacun de nous un don pour l'utilité commune. Hein? C'est pas ça que dit Paul en Corinthiens? Pour accomplir une œuvre dans l'Église. Donc chacun de nous a une œuvre à accomplir. Gestion des bâtiments, n'importe quoi, encouragement, exhortation les uns envers les autres. À chacun de nous, Dieu a donné un don pour un service, pour un ministère, pour une œuvre. Et cette prière de Moïse, elle peut être la nôtre aujourd'hui. Qu'elle ne soit pas vaine, qu'elle ne brûle pas comme de la paille une fois qu'on sera devant Dieu, qu'elle soit affermie, solide, durable, utile à nos frères et sœurs, à tous les autres dans l'Église, affermie l'ouvrage de nos mains. Affermir l'ouvrage de nos mains. Pas uniquement pour Moïse, pas uniquement pour les serviteurs, pour nous tous esclaves de Dieu. Nous tous aujourd'hui. Mais continuons notre réflexion et posons-nous. C'est beau de dire tout ça, c'est beau. Mais, et pratique, dans la pratique, comment l'ouvrage de nos mains peut-il être affermi? C'est beau la théorie, mais pratiquement et alors, comment je fais? Y a-t-il des réponses dans la Bible? Je ne vous pose pas la question, vous allez me dire oui, et vous avez raison. Sinon je ne serai pas là. Il y a déjà une réponse théorique. Elle est par excellence. Si je vous pose la question, je suis sûr qu'il y en a les trois quarts, ou même les deux tiers de l'Église vont me le dire. Je ne vous pose pas la question pour ne pas mettre les autres dans l'embarras, mais vous la connaissez. Mais je dis bien théorique. Vous la connaissez. Nous tous, peut-être 4, 5, 10 fois, 10 000 fois, on a entendu ce verset. Tout, 10 000 fois, on l'a lu, on l'a entendu, Josué, chapitre 1, versets 1 à 8. Qu'est-ce qu'il lui dit? Que ce livre de la loi ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Que ce livre de la loi, la plupart vous le connaissez par cœur, on n'a même pas besoin de le lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais dites-le jour et nuit, car c'est quand tu le feras comme ça, c'est alors que, mais dites-le, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous le connaissez tous, 10 000 fois vous l'avez entendu. J'ai bien insisté, théorique. Parce que là encore, je vais encore vous titiller un peu plus. Oui, et alors? C'est la théorie, mais dans la vie pratique, et alors? Et alors? Continuons notre réflexion. Et avant de répondre à ce que je vous ai dit, est-ce que ceci veut dire que dans la Bible, tout est décrit? Tout ce qu'on va faire? Pas tout à fait. Continuons notre réflexion, et c'est là que je demande votre attention. Si vous avez, j'allais dire dormi, non, si vous n'avez pas bien écouté tout ce que j'ai dit, du début jusqu'à maintenant, ce n'est pas grave. Écoutez-moi maintenant. La pratique. Écoutez-moi juste maintenant. Ça y est, réveillé. Premièrement, je commence par la chose la plus simple. Jacques. L'épître Jacques nous dit la chose suivante. Et à ceux qui veulent avoir des projets, on a tous des projets pour servir Dieu. Non? Tous. J'espère. D'accord? Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, on commence par si Dieu le veut. Ce n'est pas ma volonté, c'est ce qu'il a dit Jésus. La première prière qu'il nous a enseignée, que ta volonté soit faite. Si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. C'est encore du blablabla, excusez-moi. C'est pas Jacques qui dit blablabla, mais c'est pas suffisant. Continuons notre réflexion. Proverbe chapitre 16, verset 9, il est important, vous allez comprendre pourquoi. Il dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On avance. On n'a pas encore la réponse, mais on avance. Proverbe chapitre 16, verset 3 et psaume chapitre 37, verset 5. Notez-les. Notez-les. Que dit Proverbe chapitre 16, verset 3? Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est encore du blablabla. Non, la parole de Dieu n'est pas comme ça. C'est juste, je veux vous citer ces versets. Mais ces versets, vous allez voir, ont une signification très profonde. Et vous allez voir comment une personne les a appliquées. Et qu'une fois qu'elle les a appliquées, quel était le résultat? Et vous allez voir la théorie, tout ça, et la pratique avec. C'est Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Oui? Non, ne me dites pas non. Oui, vous la connaissez bien. Mais je vais vous rappeler des choses très précises dans la vie d'Esther. Vous savez, Esther, c'est une reine juive qui était l'épouse du roi Assuréus. Le roi Assuréus avait un vizir ou un premier ministre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui s'appelle Aman. Il avait une dent contre les juifs. Il avait une seule idée, les tuer tous. Et il a réussi. Il a réussi directement ou indirectement par un procédé quelconque. Ce n'est pas la peine de le citer aujourd'hui, sinon on va raconter tout le livre d'Esther. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le but. Il a réussi que le roi fait un édit, comme quoi le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'avril, Nissan, pour eux, tous les juifs peuvent être tués, dépossédés de leurs biens, ainsi de suite. Tout. Il y avait une désolation complète parmi les juifs. Et Mardoché, qui est le cousin et le tuteur en même temps d'Esther, est venu lui dire. Il lui a dit, toi, tu es la reine, tu dois faire quelque chose pour sauver le peuple. Elle lui répond, mais tu sais bien que le roi ne sait pas, premièrement, que je suis juive. S'il va le savoir, je vais mourir, je serai tuée. Deuxièmement, je ne peux pas, moi, comme je veux, aller devant le roi. Ce n'est pas parce que je suis son épouse que je peux quand je veux. D'ailleurs, vous connaissez tous celle qui était avant elle, Vasti. C'est parce qu'elle a osé venir devant le roi sans qu'il l'ait appelée qu'elle a été tuée. Donc, je ne peux pas venir. Mardoché lui dit, si toi tu te tais, Dieu délivrera quand même le peuple. Et toi, tu mourras. Et qui sait si Dieu ne t'a pas mis ici justement pour avoir une œuvre, une action à accomplir. Et c'est là où on arrive à la pratique. Là, c'était juste pour vous mettre dans le bain de nouveau. Et vous savez ce qu'elle a fait, Esther? Elle ne savait pas comment agir. Mais elle va faire une chose. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Elle a dit à Mardoché, toi et les Juifs qui sont à Suse, vous allez jeûner et prier pendant 3 jours.
Et moi, je ferai ce que je peux.
Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'agirai après. Vous priez, vous jeûnez pendant 3 jours. Et je verrai ce que je veux faire. Elle a invité le roi, avec Aman, à venir manger chez elle, au bout de ces 3 jours. On comprend bien dans la Bible qu'elle ne savait pas quoi faire. Au bout de ces 3 jours, le roi est venu avec Aman. Ils ont mangé, ils étaient contents. Le roi lui a dit, demande-moi la moitié de mon royaume, je te l'accorde. Mais elle ne pouvait rien demander, elle ne savait pas encore quoi faire. Elle lui a dit, si j'ai eu faveur auprès du roi, qu'il vienne encore demain manger chez moi. Et le roi est parti. Elle ne savait toujours pas. Mais recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande ton sort à l'Éternel. Elle était encore là. Et les Juifs priaient, jeûnaient. Et la troisième, avant qu'ils viennent, eh bien, ce jour-là, le roi il a eu une insomnie. Il n'a pas pu dormir. Quand vous avez des insomnies, qu'est-ce que vous faites? Prier? Lire? Il y en a qu'à de la télé? Match de foot? Non, je plaisante. Et le roi, il a dit, amenez-moi les annales, les archives, pour que je lise un peu, que je fasse passer le temps. Quelqu'un demande des archives pour lire, à voir s'il a des insomnies. Ben lui, il a demandé. Et vous savez ce qu'il a lu? Il a lu qu'au début de son règne, il y a eu un complot contre lui. Il y a eu quelqu'un qui s'appelait Mardoché. Il est venu dire ce complot au chef militaire, je ne sais pas à qui, et qu'ils ont déjoué ce complot, et Assurius, sa vie a été sauvée. Ah bon? Mais il a fait appeler les gens, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à Mardoché? Ah ben, on n'a rien fait à Mardoché, on lui a dit. Oh, ça, c'est pas bien qu'on n'ait rien fait à Mardoché. Il appelle Aman, ton vizir. Il lui dit, mais quelqu'un qui t'a sauvé la vie, toi, qu'est-ce que tu lui aurais fait? Ah, lui dit, je lui donnerai les honneurs. Je le mettrai sur le cheval du roi. Je lui porterai l'habit du roi et je le promènerai dans tout Suse pour que tout le monde le voie. Il a dit, c'est bien, j'aurais dû faire ça. Alors fais ceci à Mardoché, qui m'a sauvé. Bon, Aman n'était pas content, mais ce n'est pas encore la question. Mais qui a entendu ça? Esther. Le soir, quand le roi est venu chez elle pour manger, et qu'il lui a dit, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, ben, elle lui a dit tout ce que Aman a fait, son premier ministre qui était là, et il a fini pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Recommande à l'Éternel tes œuvres, tes projets réussiront. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Vous avez compris la pratique, comment je veux qu'on l'ait comprise? On n'a pas besoin de savoir exactement. Dieu, ce qu'il nous demande, mettre en lui sa confiance, il agira. Recommande tes œuvres, ils réussiront. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est là la confiance qu'il nous demande dans la pratique. Et Esther, elle avait la théorie et la pratique ensemble. Elle n'avait pas que la pratique. Elle n'avait pas que la théorie, comme la plupart de nous évangéliques, y compris moi. Il y avait la théorie et la pratique chez elle. Et c'est ça, affermir l'ouvrage de nos mains. Voilà comment Dieu peut affermir l'ouvrage de nos mains, la théorie et la pratique réunies. Je ne veux pas m'attarder plus, je crois que vous avez compris ce que je souhaitais partager avec vous ce matin. Et avant de finir, je vous rappelle ces quelques versets. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pas comme une prière, hein? Comme quelque chose que Dieu nous a déjà enseigné. afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous tous qui avons une tâche dans l'Église, prions Dieu pour qu'il affermisse notre tâche, notre service pour lui. Et comment? Eh bien, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et le dernier verset, 16:7 de Proverbe. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Que Dieu fasse progresser sa parole dans notre cœur. Qu'on ne l'oublie pas, et moi, et vous. Et qu'on sache l'appliquer dans notre vie. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions de cette grâce que tu nous as accordée de pouvoir méditer ensemble, même si c'est d'une manière imparfaite, ces paroles, cette prière de Moïse, de se rappeler cette histoire d'Esther et ce qu'elle a fait, comment elle a agi, comment tu as été avec elle. Seigneur, nous voulons te prier de nous donner d'appliquer notre cœur par ta parole, de nous donner d'avoir le courage de continuer à étudier ta parole, à la mémoriser, à la vivre à chaque instant, de persévérer, Seigneur, dans ton enseignement, de la comprendre, de savoir ce que tu veux pour nous. Et nous voulons te prier d'affermir l'ouvrage de notre main, la tâche, le service que tu nous as donné d'accomplir dans cette Église, pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Amen. Merci de votre attention. Et je laisse la place à Osna.